Nouvelle Vague.
Un rendez-vous cinéma
sur le Bouquet Grandvillers.
Bienvenue dans Nouvelle Vague, l'émission du cinéma Grandvillers et au-delà. Pour ce 12e numéro, on a pris quelques nouvelles de nos salles de cinéma. On écoutera Sophie Prévost du cinéma Le Long Cours à Coutances et on évoquera l'actualité du cinéma Le Select de Grandville. En attendant de retrouver le chemin des salles, on s'est de nouveau amusé à jouer au ping-pong avec Flora. Vous prenez vos raquettes ? Puis on retrouvera Mathieu pour la suite de son café cinéma virtuel avec le film Le Destin est au tournant de Richard Quen. Et enfin, Flora nous parlera du film Pinocchio de Matteo Garrone qu'elle devait voir en salle. Bonne émission. Nouvelle Vague.
Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai pas quoi faire.
La criée des sorties.
Nous avons pris des nouvelles du cinéma Le Long Cours à Coutances. J'ai demandé à Sophie Prévost comment cela se passait pour eux depuis le début du confinement. N'ayant pu techniquement faire une interview téléphonique, je lui ai envoyé quelques questions auxquelles elle m'a répondu par MP3. Je lui ai d'abord demandé comment les informations leur avaient été communiquées jusqu'à ce jour.
Alors dès le début, nous avons été régulièrement informés de la situation et des évolutions par la Fédération Nationale des Cinémas Français, mais il a fallu qu'on s'organise car on ne ferme pas comme ça plus de 2000 salles de cinéma. Il y a des procédures administratives et techniques qu'il faut respecter si on veut que tout se passe bien à la réouverture, notamment avec le matériel des cabines que nous devons faire tourner régulièrement. À ce jour et suite à la dernière allocution du Premier ministre, nous sommes tous dans l'attente d'une date et des conditions sanitaires qui nous seront demandées. Là aussi, il va falloir s'organiser pour avoir tout ce qu'il faut pour recevoir les spectateurs dans de bonnes conditions.
J'ai ensuite demandé à Sophie comment il s'organisait pour garder le lien avec les spectateurs et quelles initiatives il pouvait mettre en place.
Alors garder le lien avec ses spectateurs, je crois que c'est une question que toutes les salles se sont posées dès le départ. Bien sûr, ça passe par les réseaux sociaux en priorité. Au niveau national, il y a la création du hashtag « On ira tous au cinéma ». Alors c'est une période propice pour réfléchir à de nouvelles propositions et nous avons décidé d'organiser une séance en e-cinéma dans notre salle virtuelle le mercredi 6 mai à 20h15 avec le film Papicha, suivi d'un live avec Lina Koudry, qui est César donc du meilleur espoir féminin. Tout se passe sur le site de la 25e heure, il suffit de choisir le film et notre salle. C'est une première. On ne sait pas du tout ce que ça peut donner, mais comme le festival Capsure, le cinéma méditerranéen, devait avoir lieu fin avril début mai, et que Papicha était prévu en programmation, ça donnait du sens à cette proposition. Le concept de la séance unique à un horaire précis est assez fédérateur, et le live qui suit est vraiment un plus. C'est différent d'autres propositions, comme un autre dispositif qui s'appelle La Toile, qui est un service de VOD pour les salles de cinéma. Sur cette soirée du 6 mai, c'est un peu comme si on allait tous au cinéma en même temps, tous ensemble.
Pour terminer cet entretien à distance, j'ai interrogé Sophie sur d'éventuels conseils de films en cette période, et puis je lui ai demandé comment elle envisageait la reprise.
Alors sur cette période, c'est pas un film ou des films que je conseille, je dirais qu'il faut en profiter pour revoir des grands classiques du cinéma, mais c'est surtout l'occasion pour les parents, je trouve, de faire découvrir à leurs enfants des films qui ont marqué leur enfance, et ça peut donner de beaux moments de cinéma et de partage en famille. Alors pour la reprise, on attend fin mai, avec impatience, pour en savoir plus, et surtout voir comment les distributeurs vont continuer de réagir à la crise, car même si nous ouvrons en respectant toutes les conditions sanitaires, il nous faut des films porteurs pour la réouverture. Et l'accueil des spectateurs va demander une nouvelle gestion, et j'espère qu'ils reviendront au cinéma pour le plaisir de voir des films en salle.
Merci Sophie pour ces quelques nouvelles. On a hâte aussi de retourner dans nos salles. Le cinéma Le Select de Granville propose également des séances, soit en VOD avec le site La Toile, soit sur la 25e heure avec des rencontres. À venir ce samedi 9 mai à 20h15, le film Des lois et des hommes, suivi d'une rencontre avec le réalisateur Loïc Jourdain. Ce film documentaire raconte la croisade d'un pêcheur irlandais contre une nouvelle réglementation de l'Union européenne. Fédérant ONG, pêcheur de toute l'Europe et simple citoyen, John va braver pendant 8 ans les lobbies industriels et prouver, des côtes du Donegal au couloir de Bruxelles, qu'une autre Europe est possible. Je vous propose d'écouter un extrait d'interview du réalisateur pour vous donner envie de le retrouver samedi.
En fait, pour moi, John, il incarne les Irlandais tels que je les ai toujours connus depuis que je suis arrivé là-bas. Je suis arrivé dans une zone qui est très isolée en fait, du reste de l'Irlande, qui est la plus pauvre de l'Irlande, qui est coincée avec l'Irlande du Nord. Et j'ai rencontré là-bas des gens extrêmement intègres, extrêmement humbles. Et en fait, d'un seul coup, de rencontrer John, je pouvais mettre en lumière un personnage qui symbolisait en fait, tous les gens que je connaissais autour de moi et qui forcément allait vivre les choses autrement. C'est-à-dire que si on avait pris un Grec ou un Norvégien ou un Allemand allant au Parlement européen, les choses auraient été complètement différentes. Parce que, et je crois que cette humilité, cette intégrité, cet enracinement, parce que quand on voit John, c'est quelqu'un de très enraciné, qui est profondément, intérieurement, génétiquement enraciné dans ses cailloux, là où il vit. On vit ça avec lui, et quand il parle à un ministre ou quand il parle au Parlement européen, on sent son île et on sent sa communauté, on sent ses voisins, on sent la pêche qu'il fait, on le sent, quoi. C'est vraiment physique.
C'est le ping, c'est le pong, c'est le ping-pong.
Coucou, salut Marine, j'espère que tu vas bien.
Ping-pong, le blind test cinéma.
Parce qu'on a pris pas mal de plaisir lors de notre première partie de ping-pong et que certains d'entre vous nous ont dit avoir aimé y participer de chez eux, on s'est dit qu'on allait remettre ça. Si vous avez raté notre dernière émission, qu'on vous invite évidemment à écouter et réécouter autant de fois que vous le voudrez en podcast, on vous rappelle le principe de ce blind test cinéma. Chacune notre tour, on s'envoie avec Marilyn des messages audio dans lesquels on invite l'autre à retrouver le titre d'un film que l'on considère culte ou qui nous a tout simplement marqué. Cette fois-ci, c'est Marilyn qui définit les règles du jeu.
Coucou Flora, je te propose une nouvelle partie de ping-pong. C'était sympa la dernière fois. Je vais juste un petit peu modifier les catégories. Je me lance donc avec une scène de film culte à deviner. Cette fois, tu vas devoir la reconnaître juste par la bande-son, mélange de musique et de bruitage. À toi de nous dire ce qu'on voit dans cette scène d'action. Le réalisateur est un génie du cinéma qui disait faire de la direction de spectateur.
Thank you.
Marilyn, je suis contente que notre dernière partie de ping-pong t'ait plu au point d'avoir envie d'en refaire une, et qui plus est avec de nouvelles catégories. J'ai tout de suite reconnu la scène de la mort aux trousses dans laquelle on voit Cary Grant tenter désespérément d'échapper à un avion dans un champ perdu au milieu de nulle part. La scène que je te propose maintenant de reconnaître est tirée d'un film plus récent. Petit indice, il y a dans cette scène aussi une course-poursuite.
Merci Flora pour cet extrait sonore à deviner. Heureusement, tu m'as donné un indice supplémentaire en me disant qu'il s'agissait d'un film apocalyptique de la dernière décennie. Cette musique tonitruante me parlait bien, mais pas simple de retrouver le titre. Voilà, c'est fait. C'est Mad Max Fury Road, le dernier opus de la saga, mis en musique par un néerlandais connu sous le nom de Junkie XL. Je l'ai pas encore vu, donc je situe pas la scène, mais je vais essayer de rattraper ça. D'ailleurs, est-ce que le film entier n'est pas une course-poursuite? Un peu comme La mort aux trousses, tu me diras, du pur film d'action. Je te propose de changer de registre et d'émotion. Sauras-tu reconnaître le film suivant? On va écouter le début d'une chanson qui a été immortalisée par ce film espagnol et lui est pour toujours associée.
Pour ce voyage musical au pays du flamenco, de la paella et de la sangria. J'ai fouillé dans ma mémoire pour retrouver de quel film d'Almodovar était tiré ce morceau, mais sans l'émoticône chaussure à talons rouges que tu m'as envoyé par écrit pour m'aider, je n'aurais pas trouvé. Il faut dire que tout comme toi avec Mad Max, j'ai pas vu Talon Aiguille. En faisant mes petites recherches, j'ai découvert que le morceau Piensa en mi n'avait pas été composé par Luz Casal qui l'interprète dans le film. C'est en fait une reprise d'une chanson mexicaine composée en 1937 par Agustín Lara. Je te prie d'ailleurs de m'excuser si j'ai écorché quelques noms au passage. Je te propose maintenant de changer de continent et de langue. Je sais pas toi, mais je peux plus écouter la célèbre chanson qui va suivre sans penser à un film en particulier.
Juste les costumes d'autre sur soi. On ne change pas. Une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit. On ne grandit pas. On pousse un peu tout juste le temps de rêve d'un songe. Il est touché du doigt, mais on n'oublie pas. Presque nul est cet instant d'innocence quand on ne savait pas.
Merci Flora, grâce à toi j'ai la chanson de Céline Dion dans la tête. Bon, j'ai pas trouvé tout de suite, mais Xavier Dolan est bel et bien le réalisateur au BO si éclectique qu'on peut entendre à la fois du Céline Dion, du Pavarotti et Lana Del Rey dans le même film. J'ai vu son film Mommy, mais je me souviens surtout du cadrage et évidemment de la relation mère-fils au centre du film. Je te propose un nouveau film à deviner. Cette fois, c'est le réalisateur qui le présente. Tu trouveras des indices dans l'extrait de l'interview, et je t'en donne un autre. On a évoqué ce film noir dans une précédente émission car il était au programme du cinéma de Villedieu.
C'est une histoire très, très, très singulière. J'avais été engagé par un producteur avec Jacques Prévert et Gabin pour un film à X à faire. J'avais envie de faire ce film, mais pour la manière dont c'était raconté. C'était raconté d'une manière tout à fait nouvelle, qui n'existait pas encore, qui viendra d'Amérique pas beaucoup plus tard, peut-être 5-6 mois plus tard. C'est-à-dire une histoire racontée, commencée par la fin, et on fait avec des retours en arrière, qu'on appellera plus tard flashback, tant pis pour Monsieur Toubon, hein. Et c'était surtout ça qui m'intéressait. C'était de commencer l'histoire vers la fin et de voir pourquoi ce type était arrivé à tuer son interlocuteur.
Alors je remercie le cinéma de Villedieu qui a laissé le programme du mois de février sur son site internet. Ça m'a permis de retrouver le nom du film dont parle Marcel Carné dans l'extrait de l'interview que tu m'as envoyé. Il s'agit du Jour se lève avec Jean Gabin et Jules Berry. Le film sorti en 1939 est l'un des premiers à compter un flashback. Je change complètement d'époque et de style. La voix et surtout la manière de parler du cinéaste qui a réalisé le film que tu vas devoir retrouver pourrait bien t'aider.
Un des points de départ, c'était de pas faire un film à partir d'un scénario de manière traditionnelle où après on va chercher des comédiens, on les fait répéter des dialogues préécrits, etc. J'étais en train d'écrire un gros projet de ce type-là. Et l'idée de rentrer dans tout ce tunnel habituel me fatiguait d'avance. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire ce film de danse. En plus, j'adore regarder les gens danser lorsqu'ils dansent bien.
Coucou Flora. Alors là, j'ai pas du tout trouvé. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait de Damien Chazelle qui parlait de La La Land. Les voix se ressemblent, mais la façon dont le réalisateur décrit un tournage atypique, sans scénario, ça ne colle pas. Tu m'as mis sur la piste en me parlant d'un cinéaste subversif et surtout en mentionnant Monica Bellucci. Il s'agit donc de Gaspar Noé, réalisateur né en Argentine et de son dernier film Climax, apparemment tourné en 15 jours. Selon Télérama, ce serait un ovni romantico-gore stupéfiant. Une expérience donc. Merci Flora pour cette petite partie de ping-pong. Je te propose qu'on termine avec un extrait d'un morceau présent dans la BO de Climax, Supernatural de Céron.
Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit.
La Nouveauthèque.
Mathieu nous propose dans cette Nouveauthèque de poursuivre son café cinéma virtuel. Il nous a déjà parlé du film Les Voyages de Sullivan et aujourd'hui, il aborde un autre film américain, Le Destin est au tournant.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, café cinéma virtuel. On reste à Hollywood avec le second film dont je veux vous parler. Il s'agit du film Le Destin est au tournant, un film de 1954, un avatar du film noir réalisé par Richard Quine. Donc quand je dis avatar du film noir, c'est parce que Le Destin est au tournant date donc de 1954, soit plus de 10 ans après l'apogée du genre. Le film noir classique, on le sait, met en scène des archétypes de personnages, du détective à la cool à la femme fatale, du gangster patibulaire au policier fatigué, dans des situations plus ou moins tortueuses. Et Richard Quine, donc, qui est un ancien acteur devenu un intéressant réalisateur à la fin des années 40, il en propose ici une version originale qui est articulée autour d'un personnage de laissé pour compte. Alors, le personnage, c'est Eddie Shannon, qui est un mécanicien automobile. Il travaille dans un garage de Los Angeles et rêve de devenir pilote de course. C'est un homme timide qui est complexé par sa petite taille. Et un jour, il rencontre une magnifique jeune femme qui se présente d'abord comme cliente du garage et qui finit par lui faire des avances. Alors, il est d'abord circonspect et puis il se laisse naturellement séduire par cette femme qui lui présente ensuite ses amis. Et ces derniers vont lui proposer un plan douteux, à savoir conduire la voiture qui leur servira à commettre un braquage de banque avec à la clé une part du butin. Donc on comprend assez vite que Eddie a été manipulé par la jeune femme et ses amis, intéressé plutôt par ses aptitudes de pilote et son expertise de mécanicien que par autre chose.
Pretty good race.
Yeah.
What about the guy that won it?
Mitchell?
Yeah.
He owns a string of shoe stores, 4 cars, a wife, and 3 kids. Wealthy sportsman type fella.
Well, how about Shannon?
That's Shannon over there. Master mechanic, International Motors. No family, few friends, lives alone and hates it. The ripe type.
Nice car, Eddie boy, nice car.
Boy, she's hot. Hey, the brakes fade on you in the last few laps?
It's all right, Eddie. You just didn't have enough automobile, that's all.
Little guy, isn't he?
So is Napoleon.
Well, let's go get a Coke or something, huh? How do you feel, boy?
All right, fellas, fellas. Are you ready for that?
Now, isn't that lovely, huh?
Never bothers me.
Le thème de la manipulation psychologique, bon, c'est pas nouveau, hein. À Hollywood à cette période donc, mais Richard Quine il le traite en choisissant de composer un portrait sensible de son personnage Eddie, qui est magnifiquement interprété d'ailleurs par l'acteur Mickey Rooney. Mickey Rooney il a commencé sa carrière très très jeune, hein, puisque en fait ses premières apparitions à l'écran, bah, il était encore bébé. En fait, c'est un des premiers enfants stars aux côtés de Judy Garland dans les années 30, et par la suite il a eu une longue et belle carrière avec le plus souvent des rôles très énergiques, des rôles avec des dialogues brillants, de personnages un peu montés sur ressort. Et ici, au contraire, il montre une retenue, une intériorité qui conviennent parfaitement au rôle et le rendent encore plus poignant. Et Richard Quine filme cette intrigue, finalement assez traditionnelle, avec une sobriété qui est presque documentaire. C'est-à-dire qu'il montre Los Angeles, puisque, je le rappelle, on est à Los Angeles, mais le décor ne paraît jamais idyllique, un peu selon les clichés représentant la Californie. Au contraire, il y a toujours une espèce d'ennui qui se dégage de la répétition des plages, des maisons basses typiques de la Californie et du trafic des voitures. Donc tout ça illustre à l'écran la solitude, l'isolement du personnage. Donc, c'est vraiment un très beau film noir, poignant. Avec, il faut le signaler aussi, une magistrale scène de course-poursuite, hein, puisque on a quand même affaire à un personnage de mécanicien, et vu ce qu'on lui demande de faire, évidemment on s'attend à ça. Une course-poursuite sur une route accidentée, un point d'orgue du film. Et je rappelle que le titre original du film était Drive a Crooked Road, soit conduire sur une route sinueuse, avec évidemment un sens figuré très important. Donc voilà, également un film que vous pourrez retrouver dans les futures nouveautés à la réouverture de la médiathèque, pour laquelle, pour le moment, je ne vais pas vous donner de date, mais j'espère que ça sera le plus tôt possible. Merci à tous.
Avant d'écouter Flora dans les toiles de la Grand-Villaise, je vous emmène au Groenland pour une pause musicale rafraîchissante issue du film Voyage au Groenland de Sébastien Vetbédé. Thomas et Thomas sont deux trentenaires parisiens et comédiens. Ils s'envolent pour Kulversvaak, l'un des villages les plus reculés du Groenland où vit Nathan, le père de l'un d'eux. C'est drôle et décalé, comme vous pourrez le constater avec ce petit extrait en guise de clin d'œil aux intermittents. Le film est accessible sur la médiathèque numérique.
Ça marche pas aujourd'hui, Internet ?
Demain.
Thomas ?
Demain.
Demain ? Non, mais c'est pas possible demain, en fait, Oli. Il faut absolument... tomorrow,
aujourd'hui.
Tomorrow it's not possible, because les acédiques, nous deux, on est comédiens.
Intermittents.
Voilà, on est intermittent du spectacle. C'est un régime particulier, en fait. Nous, on doit faire 507 heures. Tous les ans, on doit faire 507 heures. Si tu fais pas les 507 heures, t'as pas d'argent. Tu comprends? Tous les mois, on doit cocher et dire combien d'heures on fait pour faire 507 heures. Parce que si tu... par exemple, toi, tu es chasseur de phoques. Tu tues des phoques, tu vois? C'est comme si tu devais tuer 507 phoques par an,
En 10 mois.
En 10 mois. Tu dois tuer 507 phoques en 10 mois. Et après, tu dis à la mairie de Kulversvaak que j'ai tué 507 phoques. Et du coup, tu n'as plus besoin de chasser pendant un moment et on te donne des phoques. Tu n'es pas obligé de tout le temps chasser pour avoir des phoques. À un moment donné, tu es...
Kaneak.
Hein?
Kaneak.
C'est long.
Ouais. Ah, c'est bon.
C'est la première fois que ça marche.
Ça marche. Allez, ton identifiant.
Tu peux regarder les barres
pendant
que
je la garde.
Alors, 507. Postal 75.
Ah. Allez, t'as trois barres là. T'as trois barres, c'est bon. C'est bon.
Faudrait un plus gros bateau.
L'étoile de la Grand-Villaise.
Voilà, j'ai presque fini. Pinocchio, dis quelque chose, allez, remue la bouche, hein, pour ton papou. Tiens, dis-le.
Dis papou. Papou.
Papou.
Bonjour à tous, aujourd'hui dans l'étoile de la Grand-Villaise, on parle d'un film qu'on aurait bien aimé voir en salle mais qu'on a vu ailleurs. Il s'agit du Pinocchio de Matteo Garrone qui devait sortir en salle le 18 mars avant d'être reporté au 1er juillet puis d'être finalement racheté par Prime Video. La plateforme de streaming d'Amazon n'en est pas à son premier coup. Elle diffuse déjà depuis le 15 avril la comédie forte qui devait aussi sortir dans les cinémas français le 18 mars.
Moi, je suis pas féminine.
Deux fois.
Non, t'es pas féminine. Bah, t'as vu ma fille, t'as vu le format.
Il y a des gens qui aiment ce format, hein. Tout le monde n'est pas en A4.
C'est l'incertitude qui plane toujours au-dessus des cinémas français qui a conduit le Pacte, le distributeur français du film italien, à céder ses droits à Prime pour la diffusion exclusive en France. Le président du Pacte a justifié cette vente inédite pour le mastodonte du cinéma français par la nécessité de tenir économiquement et d'éviter la fuite du film sur Internet. C'était malheureusement quasiment trop tard car la nouvelle adaptation du roman pour enfants de l'écrivain Carlo Collodi, sorti fin décembre en Italie, est piratable depuis déjà plusieurs semaines. Bref, le film qui aurait pu débarquer sur Disney+, en raison des antécédents de la maison avec la marionnette de Gepetto, est finalement disponible légalement sur Prime depuis le lundi 4 mai.
J'ai un petit garçon, vous entendez ?
Qu'est-ce qui t'arrive ?
Je viens d'avoir un petit garçon, je suis papa.
Pinocchio, tu aimes la façon dont je t'ai fait ? Moi, j'aime beaucoup.
Au revoir, mon fils, au revoir.
Par sa noirceur, le film de Matteo Garrone est assez fidèle au conte initiatique dont il est tiré. Comme dans l'histoire originale, à peine fabriqué par le menuisier Gepetto, le pantin de bois qu'on ne présente plus, prend la tangente. La suite de l'aventure qu'il vit dans le but de devenir un petit garçon normal, le thème de la filiation est central dans l'histoire, est tout aussi macabre. Sa naïveté et sa confiance aveugle en l'autre manquent de le conduire plus d'une fois à la mort. Heureusement, une bonne fée vivant avec une femme escargot veille sur lui. Oui, parce que ce qu'on n'a pas encore eu le temps de vous dire, c'est que Matteo Garrone parvient habilement à faire cohabiter les personnages réalistes et fictifs du conte. Plus l'histoire avance et plus on se surprend à trouver normal de voir parler un ton. Preuve en est que Matteo Garrone a réussi son tour de force. Il faut dire qu'il est difficile de ne pas s'extasier devant la beauté de la photographie et des maquillages. Parce que oui, s'il a en partie été choisi parce qu'il est un enfant bionique, l'acteur qui joue Pinocchio n'est pas en bois. Pour les besoins du tournage, il a dû porter pendant 3 mois une prothèse et se faire maquiller pendant 4 heures par jour. Roberto Benigni a quant à lui été vieilli afin d'interpréter non pas Pinocchio comme il l'avait fait dans sa propre adaptation du conte en 2002, mais Gepetto.
Pinocchio ! C'est pas vrai, j'ai à peine fini de te faire, que tu manques de respect à ton papa !
On va t'aider à retrouver ton papa !
T'as dit 5 chacun d'or ?
Autre détail qui a son importance, le long métrage reste familial malgré les sujets difficiles qu'il aborde comme la pauvreté, le mensonge, la trahison, le trafic d'enfants, la cruauté envers les animaux ou encore la mort. Pas sûr qu'il ne fasse pas faire de cauchemars à de jeunes enfants, mais il ne leur est en tout cas pas déconseillé. Pour conclure, si on a pris beaucoup de plaisir à redécouvrir l'histoire de Pinocchio confortablement installé dans notre canapé, on ne doute pas une seconde du fait que le film a été conçu pour le grand écran et qu'il y aurait été plus mis en valeur. On n'a plus qu'à espérer un autre sort pour d'autres grands films pour l'instant reportés.
Je veux devenir un petit garçon comme ceux de mon âge.
Merci d'avoir écouté Nouvelle Vague. Merci de nous avoir suivis dans ces propositions confinées. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission de près ou de loin, mais toujours dans le respect des règles du confinement. On vous souhaite à tous bon courage pour cette nouvelle étape qui nous attend. Portez-vous bien et de belles vagues à tous!
C'était Nouvelle Vague sur le bouquet Grand-Villais.